stop you. Are you racing or watching?
La dispute cinéma. Arne Laporte.
Autour de moi, ce soir, en public au Bel Air, le bar de la Maison de la Radio, Lucille Como, Florence Colombani et Muriel Joudet qui arrivent à l'instant en troisième position. Donc finalement, on ferait mieux la prochaine fois, Muriel. À notre affiche ce soir, The Dead Don't Die de Jim Jarmusch, Douleur et Gloire de Pedro Almodovar, Permanent Green Light de Zach Farley et Dennis Cooper, et puis il y aura un coup de cœur. Fort bienvenue, comme toujours, de Florence Colombani pour la rétrospective John Crawford à la Cinémathèque française. Nous ouvrons cette dispute assez logiquement avec le film d'ouverture du Festival de Cannes, Dead Don't Die, signé Jim Jarmusch, avec entre autres Bill Murray, Adam Driver, Chloé Sevigny, Tilda Swinton, Steve Buscemi, Danny Glover, Selena Gomez, Iggy Pop. Rajouter les points de suspension, un tour de table pour connaître tout de suite un petit avis que vous allez développer sur ce film, le sentiment que vous développerez ensuite. Muriel Joudet, si vous avez repris votre souffle.
Oui, c'est bon.
C'est bon.
Pour moi, c'est un cinéaste en état de zombification. Voilà,
comme Florence Colombani.
Paresseux.
Et Lucille Como.
Il y a une expression qui revient souvent dans la bouche du personnage qui interprète Adam Driver, c'est « Burk », sur un ton un peu low régime, et franchement, c'est exactement ça.
Low régime, premier anglicisme ce soir.
In this peaceful town, on these quiet streets, something terrifying, something horrifying is coming.
Excuse me, we're closed. Get away from me!
What the hell was it? A wild animal?
This is really awful. Maybe the worst thing I've ever seen.
What was it, wild animals?
So what are you thinking?
I'm thinking zombies.
What?
You know, the undead. Ghouls.
You look gorgeous.
Oh my. Are you in this together?
Flesh-eating zombies.
Don't joke. It's really, really creepy.
Oh, man. This isn't gonna end well. When I was a
boy, I thought I'd... They gravitate towards things they did when they were alive.
Coffee.
Chardonnay.
Did she just say Chardonnay?
Yeah, she did.
One, two, three.
Welcome to my world, zombies.
I've been telling you this is all going to end badly.
Well, that's unfortunate. I'm quite confident of my ability to defend myself against the undead.
I can see that.
Excuse me. Those are some pretty good cuts. You played some minor league ball, didn't you? Well, a little class A. It was a long time ago.
The dead don't die. Les morts ne meurent pas. Je pense qu'il fallait quand même traduire ce titre. Et Lucille Como va nous dire de quoi il s'agit, va nous donner le point de départ scénaristique, je n'emploie pas d'anglicisme, pour ce nouveau film de Jim Jarmusch.
Alors, on est dans une petite ville qui s'appelle Centerville, qui se situe globalement, on comprend, entre Pittsburgh et Cleveland, petite ville typiquement américaine, avec deux policiers, un vieux qui a passé l'âge de la retraite et un plus jeune qui est interprété par Adam Driver. Et alors, dès le départ, il se passe des choses étranges dans cette ville. Le jour ne veut pas, enfin, la nuit ne veut pas tomber, plus exactement. Tous les animaux domestiques fuient le territoire de la ville. À la télévision, on essaye, enfin, les autorités essayent de nier une rumeur qui est de plus en plus grandissante sur le fait que la Terre aurait peut-être aurait dévié de son axe. Et puis une nuit, hein, la nuit tombe enfin. D'ailleurs, on comprend pas trop pourquoi. Mais voilà, deux zombies sortent de terre dans le cimetière de Centerville et s'attaquent au seul diner.
Non, là, vous avez le
restaurant
droit.
De la ville.
C'est bien, c'est un bon début. Alors, Muriel Joudet, qu'est-ce que vous avez dit tout à l'heure comme phrase d'accroche?
Cinéaste en état de zombification.
Ah. Alors, je ne sais pas comment il faut le prendre après tout.
Très très mal, mais.
Non, je vous connais, hélas, pas de surprise. Hein.
Non, et je vais, permettez-moi de créer ici le concept de gâtisme artistique, c'est-à-dire qui peut toucher à la fois des cinéastes de 10 ans, de 20 ans. Hein. De 30 ans et de 50 ans, je crois que Jarmusch est à la cinquantaine, il y a vraiment l'idée, on voit vraiment Jarmusch faire semblant de faire un film pour moi. Et ça me met d'autant plus en colère que le film est à Cannes, qui fait l'ouverture, qu'on voit Jarmusch fanfaronner avec sa, toujours avec sa tête de rocker comme ça, qui moi m'insupporte personnellement, jamais un sourire, on sent l'artiste, quoi. Alors que le film n'est rien d'autre que un cinéaste qui joue avec ses propres figurines, qui joue avec le cinéma jarmouchien, c'est-à-dire cette manière de dialoguer avec des blancs, ce côté un peu décalé qu'incarne l'insupportable Tilda Swinton. Il a même réussi à me faire vraiment détester Bill Murray et Adam Driver. C'est dire à quel point là on est en état de décomposition et avec toujours cette pointe de cinéma rock. Donc on a Iggy Pop, on a Tom Waits dans les deux clochards du rock, parce que Tom Waits joue un clochard dans le film, une sorte de...
L'ermite.
Oui, on dirait le lion dans Le Magicien d'Oz qui traîne comme ça dans les parages et à la fin, si on n'a pas bien compris le sens du film, il est là pour nous expliquer de sa voix rauque qu'est-ce qui se passe et de quoi le film est la métaphore. Et justement, pour en venir à cette métaphore, puisque quand on fait un film de genre, quand on fait un film de zombie, il y a forcément une métaphore. Et Jarmusch profite de ça pour nous dire, finalement, c'est le syndrome de la coquille vide. Je fais un film de zombie, donc forcément, il y a une métaphore derrière. Donc, il y a des signes avant, ça pouvait être la guerre du Vietnam, ça pouvait être la menace communiste, et aujourd'hui, ça va être forcément l'Amérique de Trump. Sauf que ça, c'est pas du tout... Il ne le montre pas. Il laisse au spectateur deviner que forcément, derrière les zombies, il y a une métaphore, mais il n'y a pas de travail derrière. Et le film, surtout, ne se termine pas. Moi, j'ai été scandalisée par cette fin, voilà, où il y a cette idée... À vous le politique, décidez du politique, la fin. De la métaphore.
Oui, enfin bon, vous allez revenir dans la discussion, mais j'ai pas eu le temps de chercher qu'Alexandre Fougeron me souffle dans l'oreille que Jim Jarmusch a 71 ans, 76 ans même, hein, Alexandre.
Quoi ?
66
non, c'est pas possible.
6, 66.
66 ans ? Ah bah oui, bah c'est bon.
Bah la cinquantaine, 66.
Si vous voulez, avec non, mais son look.
Mais c'est-à-dire que je pense que votre regard sur le film est aussi approximatif que l'âge que vous lui donnez. J'y reviendrai tout à l'heure. Ah, n'attendez pas celle-là, je plaisante. Florence Colombani.
Non, moi je suis vraiment d'accord avec ce que disait Muriel Joudet.
Je trouve que. Toutes les trois, je pense, en phase.
Oui. Je trouve surtout que c'est un film qui a une sorte de pose nonchalante qui est particulièrement irritante parce qu'elle est peu nourrie ensuite par la fiction et il y a un désir de cinéma très pauvre finalement. Et ça, c'est triste. Il y a quelques années, Jarmusch, il y a même assez longtemps, avait fait un film à sketch qui s'appelait Coffee and Cigarettes. Auquel il fait référence parce qu'il s'auto-cite énormément. Il cite beaucoup d'autres films. Il y a un t-shirt Nosferatu, on parle du motel de Psychose, on parle de George Romero. Enfin, la liste des références est très longue. Mais il y a presque autant de références au cinéma de Jarmusch. Et donc, en s'auto-citant, il joue avec son amour du café qui faisait la matière de ce film Coffee and Cigarettes. Mais dommage qu'il n'ait pas repris cette idée du film à sketch pour ce film-ci, The Dead Don't Die, parce que finalement, là où ça fonctionne un peu, c'est parfois, il y a des unités scéniques qui fonctionnent, mais comme narration et comme fresque, ça ne fonctionne pas du tout. Et je trouve que le moment tragique, enfin pour moi, c'est vraiment aux deux tiers du film, quand on en arrive à une sorte de mise en abîme, que je ne dévoilerai pas parce que... Pour ceux qui veulent encore avoir des surprises dans ce film, je ne vais pas dire exactement ce que c'est, mais en tout cas, il y a une mise en abîme du cinéma. Et je trouve que là, on sent vraiment la panne d'inspiration. Et quand on en est à cette espèce d'auto-référence multipliée par 10, comme il le fait à un moment dans une scène entre Bill Murray et Adam Driver, c'est que vraiment, on n'a pas grand-chose à raconter.
Lucille Como.
Oui, moi j'irais même presque plus loin que Muriel sur la dimension pseudo-politique de fresque anti-Trump. C'est que il y a une grande, grande contradiction dans ce film et dans cette dimension-là. C'est que c'est un film qui prétend dénoncer une forme de matérialisme, comme il le dit, puisqu'en fait les zombies, on peut le dire hein, assez vite, sont une sorte de métaphore de notre humanité ultra-consumériste. Alors ils demandent du café, comme vous le disiez Florence, ils demandent du Xanax, ils demandent du Wi-Fi, ils demandent du free cable quand ils arrivent, donc du câble, enfin voilà, la télévision câble. Dans les motels et le film fonctionne justement uniquement sur une forme de fétichisme pour les acteurs, on n'en a pas encore vraiment parlé, mais aligner tant de noms pour la plupart qui ne servent aucun personnage. Je pense à Chloé Sevigny qui est un non-personnage, qui ne sert absolument à rien dans la narration et dans le scénario. Et une forme aussi dans la mise en scène de fétichisme pour certains objets, pour des belles choses, pour des décors, parce que la ville, elle est figurée uniquement en plan fixe, les uns après les autres, institution après institution. Et de la même manière, c'est totalement gratuit. C'est en effet un film totalement... dans l'air du temps, voilà, on s'offre Iggy Pop pour jouer un zombie, on s'offre Tom Waits pour faire de la voix, c'est-à-dire de la voix off. Tout ça est une forme de fétichisme qui va totalement à l'encontre du pseudo-message qui était déjà pas franchement profond que le film entendait mener en faisant du film de zombie.
Juste une question, est-ce que c'est pas antinomique, l'air du temps et fétichiste ? Je ne vois pas comment ça peut marcher ensemble, en fait. Non. Parce que rappeler Tom Waits et Iggy Pop, dire que c'est l'air du temps, non. Et ce sont effectivement des signes et des signaux très forts du passé, qu'on peut toujours aimer, ce qui est mon cas en l'occurrence. Ce n'est pas pour cette raison que j'aime le film, car oui, j'aime ce film de Jim Jarmusch.
Bon,
je vous l'avoue, j'ai pris un très très grand plaisir, parce que c'est un film qui marche sur la soustraction. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a presque rien, comme il n'y a presque pas de jeu, comme il n'y a presque pas de scénario, comme il n'y a presque pas de dialogue. Et c'est ce sous-jeu et ce sous-genre et ce sous-récit, moi, il m'a énormément amusé, d'une part. C'est vrai que la métaphore politique alliée, elle est très présente et c'est quand même pas ce qui a le plus réussi. Là, je pense qu'on a affaire à une histoire dont on parle régulièrement ici. Ça s'adresse davantage au marché intérieur américain qu'aux cinéphiles mondiaux. Le message sur Trump est d'une telle lourdeur que effectivement, je pense qu'il s'adresse quand même principalement à des Américains qui ne verront pas d'ailleurs le film de Jim Jarmusch. Enfin, c'est toujours
Trump s'appelait plus en Europe qu'aux États-Unis, je pense.
Enfin, oui, mais je pense que le message il devrait être destiné aux Américains davantage qu'à nous, me semble-t-il. Mais vraiment, c'est un film du moins. Et, l'effet spécial, le moins cher du monde et le plus efficace, il est quand même dans ce film. Il devrait faire nuit, il fait jour. C'est absolument génial. Vous voyez, tout le film, toute l'idée du film, elle est tenue là-dedans.
Mais non, parce qu'il fait nuit.
Ben non, il finira par faire nuit.
Bah oui, mais justement, c'est un des gros problèmes du film.
Mais non, il y a
un
axe de rotation qui bouge, donc on change les horaires de lever et de coucher du soleil. C'est pas si plus compliqué que ça.
Oui, mais à la limite, en effet, esthétiquement, ça aurait pu être intéressant de faire. C'est ce que je me suis dit au
départ. Mais non, il n'y a pas de raison que ça reste toujours
le jour. Mais de fait, non, à la fin, on est totalement dans une scène classique de film de zombies, de nuit.
Il y a des jours et il y a des nuits.
Oui,
mais pendant très longtemps, il devrait faire nuit, il fait jour.
Les zombies sortent quand même la nuit.
C'est ce qu'ils font. Sauf que ce jour-là durait plus longtemps. Je trouve ça une idée absolument formidable. Parce qu'effectivement, il fait avec très très peu, avec beaucoup d'amis, tant mieux pour lui, parce qu'il a des amis plutôt intéressants. Moi qui détestais Adam Driver jusqu'à Patterson, film précédent de Jim Jarmusch, chaque fois que je le revois, maintenant je l'aime. Donc contrairement à vous, Muriel Joudé, Bill Murray, on l'a connu dans de meilleurs jours. Chloé Sevigny, pourquoi c'est pas un personnage? C'est vous, Lucille Comeau, qui disiez ça?
Je le trouve totalement inutile. Je ne sais pas comment justifier son personnage.
Florence Colombani a une idée négative.
Oui, tout à fait. Je trouve que c'est un personnage extrêmement pénible et c'est le personnage féminin qui est terrorisé, qui pleure, et qu'on a envie quand même, au bout d'un moment, de faire taire. Et ça m'a vraiment gênée, ce personnage. Pour le coup, Jim Jarmusch a en général une représentation des personnages féminins qui m'intéresse. Et j'ai trouvé dans ce film, entre Tilda Swinton, qui est une sorte de cliché vaguement tarantinoesque avec son sabre, voilà. Et ce personnage de Chloé Sevigny qui est vraiment géniard, j'ai trouvé la représentation des femmes assez pénible.
Oui, mais pour une fois, Chloé Sevigny, elle n'a pas ce rôle pénible qu'on voit dans toute sa filmographie de Hit Girl et de vaguement underground. J'ai trouvé que c'est intéressant.
Bah, si c'est
finalement,
ça,
finalement, c'est une actrice. Finalement, c'est une actrice. Oui, mais finalement, elle est capable de jouer quelque chose. Moi, j'ai appris quelque chose sur Chloé Sevigny en voyant ce film.
J'ai cru que c'était un zombie au début.
Non, c'est dans tous les autres films qu'elle a tourné qu'elle semble être un zombie. Lucille Comeau.
Non, mais en fait, moi, ce que je comprends pas bien dans le film, c'est que si le second degré de la métaphore politique ne fonctionne pas vraiment, si son côté film sur le film est, moi, je trouve très gratuit. En effet, on n'a pas cité, mais il y a une tombe avec écrit Samuel Fuller. Qu'est-ce que ça vient faire là? Ça n'a pas de sens. En fait, ça fait sens. Là, ce sont des signes qui ne donnent rien à part une sorte de. Ah, moi, je.
Comme la main qui sort de la tombe, c'est l'affiche de La Nuit des Morts Vivants.
Oui, d'accord. Mais en fait, ça ne fait pas un film de raccommoder des tas de petites références qui sont ces références propres dont on sent qu'elles sont subjectives.
De quelques millions de personnes, quand même.
Oui, mais elles ne se partagent pas les unes collées les unes aux autres. Et au premier degré, c'est-à-dire au degré de la narration, si j'essaye de me raccrocher à ça, moi je n'y vois aucun intérêt, il n'y a pas de suspense, le gore il est totalement mis à plat par c'est ce que je disais là dans mon accroche, cette espèce de yerk que revient que dit Adam Driver, parce que oui en effet on n'est pas dégoûté par ce qui se passe, ça n'a aucun intérêt.
Non, parce qu'il a choisi là aussi, vous aurez remarqué, de faire autrement, c'est-à-dire qu'on n'a pas des dégoulinades de sang.
Bah oui, mais ça... on s'ennuie, du coup, moi je voulais vraiment des dégoulinades de sang, de
Si vous voulez le même, si vous voulez un doudou, il ne faut pas aller voir ce film-là, si vous voulez retrouver le même. Moi qui propose quelque chose de différent sur un thème qu'on voit quand même partout, et Cannes en fait partie de cette invasion zombie, je trouve que Jarmusch le traite à sa façon, et moi je lui essaierai d'être... Bien sûr que c'est un film mineur, ce n'est pas le film de Jim Jarmusch que j'emporterais sur une île déserte, mais je n'ai pas du tout boudé mon plaisir à Muriel Jodet.
Oui, non, mais encore si lui... Moi, ce qui me gêne chez Jarmusch, c'est que lui ne se vit pas en train de réaliser un petit film mineur.
Vous êtes dans sa tête.
Mais ça se voit, il y a une sorte de...
Comment
un cinéaste se positionne dans ses films, et ça fait une décennie
qu'il pas l'impression qu'il du tout, je pense qu'il se moque de lui, là.
Pas du tout. Non, il se paye, il s'offre un film de zombies à la Jarmusch. En plus, c'est une comédie, enfin, il joue sur le macabre et tout ça. Et du coup, c'est assez drôle, parce que je pense qu'il se vit comme... J'arrête de penser à sa place, mais... comme une sorte de figure de la contre-culture, alors qu'il est devenu l'académisme absolu. Et du coup, cet académisme, ce côté mainstream, finalement, voilà, va sucer le sang du film de zombies. Pour moi, il y a vraiment cette idée de prendre le film de vampire comme il l'a fait avant.
Only Lovers Left Alive, c'est vraiment un film mainstream, un film
académique. Pour moi, c'est
académique.
Ça, c'est comment mainstreamiser, désolé, c'est très moche, les genres qu'il veut s'approprier, c'est vraiment ça.
Mais c'est pas le cas.
Avec des signaux de faussement contre-culturel, parce que Tom Waits et Iggy Pop, il n'y a pas plus pour moi académique maintenant dans le rock que ces deux figures-là. Chloé Sevigny aussi, sa gloire, cette actrice du cinéma indépendant, tout ça c'est fini. Donc il prend toutes ces vieilles gloires de la contre-culture et il essaye d'en faire un film un peu décalé, un peu déjanté, un peu rock.
Enfin, Tom Waits était déjà acteur dans le deuxième film, deuxième long métrage de Jarmusch il y a 30 ans. Il le récupère pas aujourd'hui.
Oui, non, c'est vrai que c'est aussi la parade des acteurs de Jarmusch, mais pour moi, il y a presque une sorte d'impensée dans l'idée que Jarmusch n'est plus le cinéaste indépendant, qu'il était avant. Et j'ai vraiment la sensation, en lisant même des interviews, que lui ne comprend pas ça.
Ah oui, alors j'ai pas lu d'interview, mais vous lui prêtez beaucoup quand même, me semble-t-il.
Et on le voit dans le film.
Moi, dans le film, j'ai vu l'inverse, donc c'est vraiment une question de focale.
Florence
Colombani. J'étais à Muriel Colombani, je me suis dit non, ça marche pas.
Il y a eu un moment de suspense pour l'auditeur.
C'est terrible,
hein. Un Jarmusch avec des blancs.
Ouais. Ouais.
Non, je pense, le titre du film...
Tout
donc...
ça va mal finir.
Oui, sachez-le. Ça, c'est une réplique du film. Joliment casé. Le titre du film, The Dead Don't Die, c'est aussi le titre d'une chanson de country qu'on entend à de multiples reprises pendant le film.
C'est horrible, dès la première fois, c'est pénible.
Voilà. Et je pense qu'il y a une métaphore là assez nette du cinéma de Jarmusch. C'est que, d'ailleurs, vous lirez cette expression dans beaucoup de textes sur lui, c'est une petite musique. Parce que c'est un cinéaste d'ambiance, d'atmosphère, on retrouve des leitmotivs. Donc c'est une petite musique, et cette petite musique peut taper sur les nerfs.
Bon, Lucille Como.
C'est vrai que je comprends pas.
Je vous appelle Muriel Como.
Je comprends pas son cinéma, je vois pas les liens.
Vous avez vu Only Lovers Left Alive ?
Oui, que je trouve être un très beau film pour le coup. À l'inverse, je vois. En fait, je trouve que c'est un très beau film, mais le fait qu'il puisse faire Only Lovers Left Alive et ce film me déroute totalement, parce que pour moi, c'est pas la même personne. Enfin, je comprends pas son cinéma, je crois.
Ouais, mais
pas de cohérence.
C'est peut-être aussi pour ça que ça m'intéresse ou que ça me plaît, allez savoir. Parce que à la fois, j'étais vraiment, et je l'ai revu d'ailleurs, Only Lovers Left Alive. Je trouve ça un très grand film romantique qui m'a beaucoup ému, et celui-ci m'a fait beaucoup rire. Donc, moi, je suis content qu'un cinéaste puisse offrir des films assez différents les uns des autres. Bon. Vous avez plein de choses à dire sur le film de Pedro Almodovar que je n'ai pas encore vu. On a pas mal de choses à dire sur Permanent Green Light. Donc, on va s'arrêter là pour The Dead Don't Die. Les feuilles de Lucille Como tombent au sol. Enfin, elles les jettent. Hein. C'est agréable. Donc, vous connaissez le programme qui va suivre. Et puis, il y aura aussi un coup de cœur consacré à John Crawford.
France Culture. La dispute. Arne Laporte.
Alors, cette dispute se poursuit. On parle toujours de cinéma, toujours de films en compétition, sorti lui aujourd'hui dans les salles Douleur et Gloire de Pedro Almodovar, ce qui rime finalement en français. Premier tour de table rapide pour connaître vos impressions sur ce film. Florence Colombani.
Magnifique.
Lucille Como.
Toujours comme dans les autres films d'Almodovar, j'ai l'impression d'être face à un trop d'histoires, trop d'épiphanies. Ça me laisse assez frustrée, assez démunie.
Muriel Joudet.
Moi, je suis sortie, j'étais une serpillère. Enfin, je trouve ce film absolument sublime. Voilà.
Ah.
Ah, ouf.
Enfin, ouais, ah, moi, je ne l'ai pas encore vu. Alors,
non, mais parce que je croyais que serpillère, ça veut dire qu'on a aimé.
Ouais, ça dépend. C'est pour ça que vous l'avez expliqué.
Cuéntame, Salvador.
Insomnio.
Si no escribes ni ruedas, ¿qué vas a hacer?
Vivir, supongo.
Tienes demasiado tiempo libre para pensar en tus dolencias.
¿Ves a Alberto?
Me alegra que ya no le guardes rencor.
¿Qué haces aquí? Tengo que hablar contigo. La filmoteca ha restaurado sabor. Por eso creo que ahora es justo que la presentemos los dos en la filmoteca.
No te reconozco, Salvador.
Asco.
No has sido un buen hijo, hijo mío.
No. No quiero ir al colegio, quiero quedarme aquí.
Cuidado, qué niño. Tú eres muy novelero.
No voy a permitir que me humilles otra vez. Tu tiempo, cabrón, ven a ti.
Sí. Cada película tuya era un acontecimiento en mi vida.
Estoy con Salvador Mayor.
¿Tienes pareja ahora?
Sí. ¿Y tú?
No.
Douleur et gloire. Alors j'ai vu cette bande-annonce en salle avant le merveilleux film de Jim Jarmusch, mais je n'ai pas vu ce film. Muriel, vous nous résumez l'histoire qui vous a mis serpillère.
Alors, c'est l'histoire d'un cinéaste espagnol très connu, très réputé, et qui vit une mauvaise passe due à des problèmes de santé aussi au décès de sa mère. Donc, ça fait plusieurs années qu'il n'arrive pas à se remettre au travail. Et le film nous raconte voilà, cette parenthèse qui va remplie de fantômes, de souvenirs et de problèmes de dos. Voilà.
Bon, c'est pas mal comme résumé. Florence Colombani.
J'ai relu un très beau texte que Pedro Almodovar avait publié au moment de la mort de sa mère, donc en 1999, qui était paru dans El País et qui était aussi paru dans la presse française. Et dedans, il y a plusieurs éléments qu'on retrouve dans le film. Et qui sont très beaux, notamment le fait que sa mère lui demande... on voit la mère du cinéaste dans plusieurs flashbacks, quand elle est jeune, jouée par Penélope Cruz, et ensuite plus âgée, dans sa relation, dans ses derniers mois, quand elle vit chez son fils, cinéaste célèbre à Madrid. Et elle lui demande d'être enterrée dans une mantille noire, parce qu'elle veut être enterrée en veuve. Et elle lui dit aussi cette phrase très belle, elle lui dit « Ne m'attachez pas les pieds, car là où je vais, je dois être légère ». Et quand on voit ça dans le film, c'est magnifique et bouleversant. Et quand on lit ce texte d'Almodovar et qu'on voit que ce sont les mots de sa mère, ça va bien au-delà d'un film autobiographique. C'est bien sûr qu'on comprend que c'est Almodovar, que Banderas s'est fait sa tête. Tout ça, bien sûr, on le comprend. Mais ça va très au-delà de ça. C'est-à-dire que c'est un film qui touche vraiment à l'universel du sentiment humain et du lien familial. Et aussi d'une sorte de bilan de la vie. Et j'ai trouvé ça très intéressant de voir que, en fait, la mère d'Almodovar est morte en 99. Et dans la fiction, elle est morte il y a seulement quelques 4-5 ans, je crois. Et donc, il est dans un processus de deuil, le personnage beaucoup plus frais que le cinéaste dans la vie réelle. Et en fait, il y a toutes ces années, il y a ces 20 ans-là, dans la grandeur du film, parce qu'il y a cette profondeur de regard sur une vie. Et c'est un film qui interroge ce qui fait une vie et qu'est-ce qui compte dans une vie. Et bien sûr, il en revient à l'enfance, ce qui n'étonnera pas les gens qui aiment son cinéma, puisque ce village, cette enfance pauvre, ce rapport à la mère, ce rapport à la connaissance, tout ça sont des choses qu'il a égrenées dans beaucoup de films. Mais c'est particulièrement aigu et fort de voir ça synthétisée de cette façon. Et j'ajoute juste une dernière chose, c'est que pour moi, j'ai toujours pensé que les films d'Almodovar se séparaient en deux genres. Le mélodrame ou le film noir, et à ces deux genres correspondent deux genres, le genre masculin et le genre féminin. Les mélodrames, c'était les films des personnages féminins, et les films noirs, les films des personnages masculins. Et ici, pour la première fois, il fait une sorte de mélodrame, même si c'est dans une grande simplicité, une grande épure, sur un personnage masculin. Et il a enfin une douceur de regard avec le personnage masculin qu'il n'avait jamais eu. Et il a toujours, jusque-là, une sorte d'âpreté dans son rapport aux hommes. Et ça aussi, c'est bouleversant. Cet autoportrait et ce que fait Banderas, et on sent aussi la puissance d'un lien de plusieurs décennies avec un acteur, c'est vraiment un chef-d'œuvre.
Lucille Como ne semblait pas partager tout à fait cet avis.
Non, mais en même temps, je suis assez mal à l'aise avec ce film. Je pense vraiment du mal à l'appréhender. Je le trouve extrêmement riche. Et en même temps, c'est comme si cette richesse créait du vide en moi. En fait, j'arrive à déplier théoriquement tous les arcs narratifs. Il y a en effet ce personnage qui est le film sur le film. Donc le film sur un réalisateur en train de potentiellement se remettre à travailler. Le film sur le corps en douleur, en souffrance. Le film de deuil. Le film aussi sur le premier désir. Voilà, avec ses effets de flashback. Sur ces premiers désirs-là. Et tout ça crée un scénario qui déroute beaucoup parce que, en fait, on a l'impression que plusieurs films s'amorcent et se terminent à la fois. Et il y a une temporalité qui est extrêmement plate, c'est-à-dire que même les flashbacks qui sont artificiellement amenés, donc on a l'impression que tout ça n'est qu'un fil avec des scènes qui se succèdent et des scènes qui sont toutes très fortes, une scène de retrouvailles, une scène de dernier dialogue avec la mère, tout ça, ce sont des très grands moments dans la vie, comme vous le disiez Florence, sauf qu'il y en a tellement que tout est sur le même régime. Là, pour le coup, c'est pas du sous-régime comme chez Jarmusch. C'est tout le temps une grande intensité, tout le temps un appel aux larmes, tout le temps un appel aux souvenirs. Voilà. Et du coup, moi, ça me laisse paradoxalement extrêmement froide de me retrouver face à cet objet-là. En plus, ça s'articule avec cette intensité aussi des couleurs, des costumes, des décors qui, moi, me fatiguent beaucoup l'œil. Je trouve ça assez laid, en fait. J'ai toujours trouvé ça assez laid, le cinéma d'Almodovar. Après, la laideur, ça peut être un choix esthétique. Vraiment, je pense que le kitsch.
C'est pas le sien.
Voilà, je pense que c'est plus le kitsch. Moi, bon, je trouve ça extrêmement laid. Mais par exemple, ce personnage d'Antonio Banderas, il se promène dans son appartement parce que, bon, comme il est souvent malade, il est très souvent chez lui. Un appartement qui est une sorte de musée de choses, mais immonde. Je veux rien chez moi. Enfin, des tableaux moches, des tapis moches, tout est immonde.
A pris des photos chez Almodovar.
Oui, mais c'est une reconstitution. Ah, mais ça, on peut l'imaginer totalement. Moi, je trouve ça horrible. Et en fait, le sur-régime même, tous ces meubles, tous ces trucs, ça me parasite. Et ce que je trouve intéressant en revanche, c'est que Antonio Banderas, et là je vous rejoins, je trouve passionnant dans ce qu'il fait comme travail d'acteur, parce que pour le coup, il est très, face à toute cette artificialité des personnages autour de lui, des décors, des costumes, il est très simple, enfin il est presque transparent, on voit la maladie sous ses yeux, on voit la transparence de sa peau, tellement il est maigre, tellement il est blanc, tellement il a l'air fatigué, et ça, c'est passionnant parce qu'en fait le personnage a l'air lui-même complètement perdu dans le film, mais vraiment complètement, et du coup je me suis identifiée de ce point de vue au personnage. En revanche, ça ne m'émeut pas, je n'arrive pas à m'émouvoir. Les personnages de mère à la Almodovar, je n'en peux plus, même presque ça me gêne que tous les personnages féminins dans ce film en tout cas soient ou des mères ou des assistantes, ce qui revient en fait au même, parce que c'est des femmes qui doivent prendre soin des hommes fragiles. Tout ça me fatigue vraiment. Je ne sais pas comment dire autrement que ça me fatigue, quoi.
Alors, bonne nouvelle, Pedro ne cherche pas de coloc, donc vous ne serez pas obligé de vivre chez lui.
C'est vraiment l'enfer.
Muriel Joudet.
Non, mais je comprends Lucille quand elle parle de sur-régime, parce qu'en fait, le film installe une temporalité qui est très particulière et qui est celle de l'oisiveté. L'oisiveté pour un artiste, parce que le film pose la question que fait un cinéaste quand il ne travaille pas ? Et du coup, on est dans un temps qui s'ouvre aux souvenirs. Aux fantômes, à toutes les maladies. Moi, j'ai adoré. Au début, on a une sorte de longue séquence de graphisme où il explique où il a mal. Et en fait, il a mal partout. Et donc, on a comme ça des planches anatomiques, mais stylisées à la Almodovar. Et c'est très, très beau. Il a un acouphène. Et puis après, il passe aux maladies de l'âme. Et bien sûr, il est dépressif. Bref, tout ce qu'on a, il l'a aussi. Et c'est très rassurant. Et moi, je trouve ce temps, la manière dont il installe le temps, et c'est vrai que tout est à égalité, et très très belle, et genre, je peux comprendre qu'on puisse trouver l'univers d'Almodovar très laid, mais moi je vois ça comme une marque d'élégance absolue. C'est un film qui parle quand même de choses très, très tristes, très mélancoliques, de l'angoisse, et qui enserre ça dans le dispositif Almodovar, donc multicolore, avec dès qu'il y a une chemise, elle est bariolée, fleurie. Enfin, ça fait très mal aux yeux. Moi, je trouve ça vraiment sublime dans le film parce que on voit qu'on est dans un espace mental, tout simplement. On n'est pas ailleurs que dans la tête d'Almodovar. Et à cette question, alors que fait un cinéaste quand il ne travaille pas ? Le titre y répond. À la fois, il y a la gloire. Donc, on voit Antonio Banderas répondre au courrier avec son assistante, aller se rendre. Enfin. Rater un rendez-vous à la Cinémathèque, on lui rend un hommage. Et puis il y a la douleur. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il arrive à éviter l'écueil du cinéaste de la vieille gloire qui regarde derrière lui, qui regarde son passé, qui fait défiler les souvenirs. Il n'y a pas de regard paternaliste. Il n'y a pas l'idée comme ça d'une sorte de surmoi autorisant qui va jouer avec ses figurines. C'est quelqu'un qui est fragilisé, c'est quelqu'un qui va très mal, c'est quelqu'un qui passe des IRM, qui va chez le médecin, qui pense qu'il a une... Enfin, on lui cache qu'il a peut-être une tumeur. Je ne révèle rien parce que... Bon, il n'y en a pas.
Mais quoi ?
Et enfin, voilà, c'est un corps...
Vous en
qui
dites
va
trop,
chez le médecin.
Je suis scandalisé.
C'est un corps qui va chez le médecin. Et ça, c'est très beau dans le film. Et c'est un corps aussi qui se drogue. Et l'importance de la drogue dans le film est fondamentale. Et je pense que là, il y a une sorte de réalisme dans la manière dont Almodovar installe. La drogue est très importante. Et je pense qu'elle est très importante en général dans la vie des gens et dans la vie des artistes. Moi, j'ai pensé, alors c'est pas du tout le même film, Il était une fois en Amérique, de Sergio Leone, puisque les volutes d'opium faisaient arriver les souvenirs. Et c'est exactement ce qui se passe dans le film d'Almodovar. C'est la prise d'héroïne qui fait arriver les souvenirs. Et ça, je trouve ça très beau. J'ai aussi évidemment pensé à Mia Madre de Nanni Moretti, qui faisait son film Contre Amour de Haneke. Et pour moi, le film d'Almodovar est aussi une réponse au film de Haneke, c'est-à-dire élégance, pudeur et cinéma aussi. Parce que pour moi, il y a du cinéma partout. Dès le générique, je suis presque en larmes, quoi, tellement c'est beau.
Ça commence comme ça. Bon, je vais dire à Jim Jarmusch, je vais faire un film sur les hôpitaux et la drogue pour pouvoir vous plaire. Muriel, je vous prenez des notes, Lucille Comeau, pendant que votre camarade parle.
Non, ce qui est très beau, c'est la gravité. D'ailleurs, c'est un des mots qui revient à un moment clé. Bon, il y en a tellement du film, je me souviens plus à quel moment. Mais en tout cas, la gravité, moi, je la vois beaucoup dans ce qu'Almodovar fait de cette forme film sur le film, qui, je trouve, est le piège absolu du cinéma. C'est hyper compliqué de faire un truc intéressant et pas trop théorique sur un film. Et là, en l'occurrence, il en fait un truc assez beau. Parce que c'est un aveu d'échec et je pense que c'est aussi pour ça que j'aime pas trop le film, c'est que on passe par des tas de possibilités de ce que pourrait être le film. En effet, le film sur le corps, c'est presque à la Lars von Trier, ce passage où on a des planches anatomiques, un côté un peu encyclopédique possible, et puis le film le mélodrame amoureux, enfin vraiment. Et au final, ça se rabat toujours, mais je suis un peu obsédée par ça, mais sur la figure maternelle, qui pour moi est un écueil de son cinéma depuis le début, parce que je trouve ça pas très intéressant, en fait, la relation fils-mère telle qu'il l'a décrit, et c'est beaucoup vu et beaucoup rabâché par son cinéma. Et donc, du coup, j'y vois une forme, paradoxalement, parce que c'est pas ça la trajectoire du film, mais d'aveu d'échec en tant que cinéaste, et d'une certaine manière, quelque chose plutôt qu'un film de deuil, un film assez testamentaire. Je vois pas trop, pour le coup, ce qu'il peut faire après.
Florence Colombani.
Oui, je pense
il va faire un film de zombies, hein, il m'a prévenu. Almodovar, c'est prévu.
C'est vrai que le rapport à la mère, c'est quelque chose qu'on a vu beaucoup dans son cinéma, mais il est très différent ici, parce que il y a deux niveaux d'exposition de cette mère, c'est-à-dire qu'il y a justement Penélope Cruz qui est clairement l'incarnation fantasmée, sublimée dans des robes magnifiques, extrêmement glamour, qu'il fait ressembler à Sophia Loren et tout ça. Il y a tout un jeu aussi avec l'univers cinématographique qu'il a formé, qu'il a constitué.
Oui, italien en effet, vraiment italien. Dans les flashbacks.
Et d'ailleurs, oui, il y a Mina sur la bande-son, donc il y a tout un imaginaire italien autour de ça. Et parallèlement, la vraie mère qu'on voit, enfin la vraie mère qui est elle aussi jouée par une actrice bien sûr, mais qu'on voit dans les moments qui précèdent sa mort, beaucoup plus dure, beaucoup moins aimante, beaucoup moins dans l'apologie de ce fils qui a pourtant si bien réussi qu'on ne croirait. Et moi, ça a été une grande surprise, cette dualité de la mère dans le film. Et j'aimerais revoir d'ailleurs un certain nombre de films d'Almodovar à la lumière de ça, parce que c'est comme si tout à coup, dans cette mise en scène directe de lui-même qu'il fait, qu'il n'avait en fait jamais fait à ce point avant, il révélait quelque chose d'une vérité très intime et peut-être cachée à lui-même jusque-là. Donc j'ai eu cette impression d'un rideau qui se soulevait sur quelque chose de cet univers intime. Et puis l'autre chose, c'est que quand Muriel parlait de l'héroïne qui amène les flashbacks, oui, il y a quelque chose de la littérature du 19e siècle dans ce rapport à la drogue. Il y a quelque chose de très romantique et en même temps qui réussit à ne pas être dans l'idéalisation. Il est sur un fil, mais c'est très finement réalisé.
Muriel Jouté.
Oui, il déjoue l'idéalisation à la fin, on ne peut pas en dire plus.
Non.
Là où je trouve le film pas du tout narcissique, c'est qu'il s'ouvre à quelque chose qui est de dire à la fin, quand on fait ce qu'on doit faire dans la vie, et bah c'est une petite victoire sur la maladie, la mort. Et encore une fois, la maladie, pas au sens... on n'est pas dans le ciel des idées avec dans ce film. On est vraiment dans des trucs très concrets, des mots... Il a des mots très, très particuliers. Il a des médicaments qu'il prend régulièrement dans le film. Et à chaque fois, il y a cette idée de petite victoire dès qu'il commence à créer. Et ça, c'est là, pour moi, le film a quelque chose d'universel, même si je déteste ce mot, au sens où, dès qu'on est dans sa vocation... Il y a quelque chose de consolatoire, Et le film pour moi est profondément consolatoire. Je suis vraiment sortie c'est ce que je demande, je pense, à un film, c'est cette idée de montrer à la fois, d'être à la fois lucide sur les mots humains et en même temps de me rattraper par une sorte de consolation, mais qui n'en est pas moins, qui se fait pas sur des illusions. Et le film est vraiment magnifique sur ce terrain-là.
Lucille Gomeau, pour terminer cette séquence.
Non, mais vous dites ce qu'on doit faire de la vie, comme si c'était une sorte de téléologie qui se met en forme dans son cinéma. Moi, pour le coup, la destinée, pour moi, c'est une mythologie, donc je la déconstruis immédiatement.
Vocation, c'est mieux, c'est plus concret.
Oui, mais c'est quand même... Oui, mais vous avez dit ça. Enfin, y a quand même quelque chose de l'ordre de la mythologie, et la figure de la mère, elle rentre là-dedans. Moi, j'y vois pas quelque chose d'universel, pour le coup, j'y vois quelque chose d'extrêmement culturel, et je peux pas m'empêcher de le déconstruire. Ça me met très très à distance.
Après, il y a beaucoup de personnages dans le film. Moi, j'avoue, la mère, c'est un personnage très important, mais il y a tellement d'autres. C'est une parade de personnages comme ça qui, pour moi, me font presque oublier la mère, même si je trouve qu'il le traite de façon très belle. Je vois aussi les autres, les anciens amants, l'assistante. Je les vois tous et ils sont à égalité avec cette mère.
Allez voir, comme je vais le faire moi en sortant de l'émission, allez voir par vous-même Douleur et gloire de Pedro Almodovar, sorti ce jour sur les écrans français.
Get your things out of this house right now before I throw them into the street and you with them. Get out before I kill you.
C'est un autre genre de mère qu'incarnait John Crawford dans Mildred Pierce, un rôle qui lui a valu un Oscar en 1945, ce film de Michael Curtis. Rétrospective, John Crawford, c'est votre coup de cœur, Florence Colombani.
Oui, je voudrais inviter à redécouvrir John Crawford, qui était une immense star dont on n'a pas idée de la célébrité à son époque, mais qui est très oubliée. Peut-être que son nom ou son visage reste un peu en tête des cinéphiles, mais ses films sont finalement assez peu vus. Et c'est une très bonne idée de la Cinémathèque que de lui consacrer cette rétrospective qui permet de reparcourir tout un morceau de l'histoire du cinéma, mais aussi tout un morceau de l'histoire des femmes et de l'histoire des États-Unis. Donc John Crawford était née Lucille Le Sueur, un nom très français, et c'était une danseuse de Broadway, c'était une femme qui venait d'un milieu très modeste et qui a réussi par sa beauté et sa ciné-génie à devenir une star sous ce nom américanisé de John Crawford, un nom créé par la MGM quand elle est prise sous contrat par le studio dans les années 20. Et donc elle fait ses débuts à l'époque du muet, et ensuite elle incarne cet idéal féminin de la modernité qu'est la Flapper Girl, la Chloé Sevigny de son époque, la jeune femme des dancing, la jeune femme moderne qui fume, qui est libre dans son rapport à son corps et aux hommes, et dont Scott Fitzgerald décrira qu'elle est une jeune personne douée de talent pour la vie. Il parle de ça à propos de John Crawford précisément, en disant que c'est l'image même de la Flapper Girl que lui-même a tant décrit dans ses livres. Donc c'est une image de la modernité, et en fait elle ne cesse par la suite d'incarner cette modernité, y compris dans Mildred Pierce, donc ce film de Michael Curtis tiré d'un roman de James Cain, pardon, où elle joue une mère trahie par sa fille Il y a un affrontement mère-fille mémorable autour d'un homme et il faut absolument voir ce film pour comprendre à quel point c'est à couteau tiré. Évidemment, elle sera rattrapée dans la vie par cette image de mauvaise mère puisqu'elle adopte une fille qui ensuite se retourne contre elle et écrit des mémoires assassines sur tous les mauvais traitements qu'elle lui a fait subir. Dans la dernière partie de sa carrière, Joan Crawford incarne notamment la tenancière de saloon de Johnny Guitar, de Nicolas Ray. Et donc jusqu'au bout, elle est cette figure de femme indépendante, dure, presque virile, même physiquement, et avec son maquillage extrême, avec ses tenues assez exagérées. Elle sera aussi un modèle pour les drag queens des années 70. Donc c'est, je pense, la modernité, le maître mot de cette carrière de Joan Crawford. Et aussi dans cette image de la star qui peut être tellement dans l'exagération et qu'on en arrive à une sorte de burlesque. Et là, on est dans le film de Robert Aldrich, qu'est-il arrivé à Baby Jane, où sa rivalité avec Bette Davis atteint un summum. Donc, carrière à redécouvrir et personnage fascinant.
Je confirme et je dis plus un pour cette rétrospective Joan Crawford à la Cinémathèque française.
France Culture, la dispute. Arne Laporte.
Dernier film à notre affiche ce soir, non présenté à Cannes, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne bénéficie pas de la même lumière que tous les films en compétition, y compris celui que vous avez adoré de Jim Jarmusch. Mais je tenais à le mettre au programme. Permanent Green Light de Zach Farley et Dennis Cooper. Là aussi, impression générale sur ce film. On commence avec Lucille Comeau.
Oui, c'est un objet qui commence comme quelque chose de très théorique, d'un peu froid, mais qui s'incarne et que j'ai trouvé très beau.
Muriel Oudet.
Pour moi, c'est un film qui s'amuse à se faire peur, mais n'y parvient pas.
Oui, Florence Colombani.
Moi, c'est un film programmatique et qui reste trop fidèle à son programme.
J'essaie de déchiffrer la différence entre la finalité et la mort.
Les choses qui comptent meurent. Celles qui ne comptent pas s'arrêtent.
Exactement.
Permanent Green Light. Alors évidemment, à l'écoute de cette bande-annonce, nos auditrices et auditeurs doivent se poser un certain nombre de questions. Au moins, Florence Colombani, le point de départ, là encore, de narratif de ce film.
Le point de départ, c'est un très jeune homme qui a une fascination pour la destruction et au départ, un immeuble qui s'effondre est l'objet de sa première fascination et on en comprend assez vite que ce qui l'intéresse vraiment, c'est l'autodestruction et que l'enjeu de ce film, c'est le suicide et l'attrait qu'il peut exercer sur un groupe d'adolescents.
C'est assez bien résumé. Lucille Comeau, qui va être de mon côté, visiblement, sur ce film. Comme ça, les configurations changent d'un film à l'autre.
Oui, et pourtant, ce n'était pas gagné parce que c'est un film qui a vraiment tous les attributs du film générationnel, un peu branché. On a parlé de Jessica Forever il y a peu de temps. Vous étiez là, Muriel. Je pense que la comparaison est assez intéressante à faire. Donc là, en l'occurrence, il s'agit d'une bande de jeunes hommes dans une banlieue pavillonnaire, à nouveau, qui est un décor maintenant très utilisé par un certain cinéma français, avec un dispositif très, très plastique. J'y reviendrai. Moi, je le trouve assez beau, et notamment la manière de cadrer. Les dialogues sont très neutres, très écrits, il y a une froideur autour du récit. Et c'est un récit, en effet, qui prend à nouveau en charge la question de la violence, de sa nécessité, de la terreur, du suicide, qui sont en effet des thèmes très explorés en ce moment par un certain cinéma français. Moi, vraiment, pendant un premier quart d'heure du film, j'ai été extrêmement agacée par à la fois le dispositif très plastique, que je trouvais très artificiel, par cette espèce de, à nouveau, là, de sous-régime des dialogues et cette manière de ne pas les jouer des différents acteurs. Et en fait, ça s'est incarné au fur et à mesure, un peu, vraiment, c'était assez surprenant l'effet que ça a fait sur moi. Je pense qu'il y a deux grands axes qui m'ont fait beaucoup changer d'avis. Il y a à la fois l'humour. Je trouve que c'est un film extrêmement drôle, y compris dans la distance qu'il y a dans les dialogues. Il y a une scène d'enterrement que je trouve, alors même que c'est un lieu commun de ce qu'on peut faire de comique dans un film macabre, que je trouve extrêmement drôle. Et puis, dans la sensualité qui s'instaure et qui prend énormément d'ampleur dans le film, et qui est quelque chose d'extrêmement classique, c'est-à-dire qui circule entre les deux pôles les plus archaïques du monde, que sont la mort et l'éros, et que tout ça fonctionne très bien, que ça réactualise une forme de romantisme à nouveau là, par le haut. Vraiment, il y a quelque chose de très noble, de très poétique dans la manière dont ces personnages deviennent des personnages fondamentalement romantiques jusqu'à une scène finale qui m'a vraiment, pour le coup, assez bouleversée. Cet acteur principal qui devient vraiment un héros, au début, la bande est assez indistincte et puis ce personnage prend beaucoup, beaucoup d'ampleur. Il m'a vraiment touchée assez, assez profondément.
Allez voir les mimiques de Muriel Jouzet pendant que vous parliez. Lucille Como qui se demandait si elle avait vu le même film, visiblement.
Non, je comprends ce que dit Lucille. Moi, le problème, c'est le mot que Lucille a utilisé, d'incarnation. Pour moi, le film ne s'incarne jamais. Alors, peut-être, je me suis dit à un moment, donc Dennis Cooper est un écrivain, Zach Farley est un artiste. Et peut-être qu'en connaissant en ayant lu les romans, je ne sais même pas si c'est des romans ou les récits de Dennis Cooper, on comprend ou on est un peu plus indulgent face à ce film.
Alors, c'est très, très différent de tout ce que j'ai pu lire. J'en ai lu beaucoup. D'accord. Dennis Cooper, qui est un immense écrivain, mais qui est beaucoup plus. Je vais employer un mot anglais, c'est horrible, hein, trash. Non, c'est vrai qu'il explore des questions de sexualité, de rapport, de serial killer, parce que ça, c'est un mot anglais que j'ai le droit d'utiliser, extrêmement violent, et que moi, j'étais très surpris par la très grande douceur, entre guillemets, de ce film-là. Donc, ça ne vous aurait pas renseigné.
Moi, par exemple, je ne connais pas du tout.
Et oui, mais c'est ce que je
vous engage à lire Dennis Cooper. Hein.
Oui, peut-être, on verra.
Zach Farley, lui, vient vraiment des arts plastiques. Quand vous dites artiste, quand
ça,
on
ça
les gens de cinéma
peu...
des artistes, ça veut dire art plastique. Hein, je traduis.
Oui, c'est ça. Désolé, c'est un autre monde, on ne connaît pas trop. Mais en tout cas, ça se sent parce qu'on sent un dispositif très réfléchi en amont et qui ne se confronte jamais à la réalité du tournage. Pour moi, il n'y a pas de confrontation, il n'y a pas la volonté de casser un peu le dispositif par les acteurs, par ce qu'on trouve sur place. Et du coup, je ne vois pas le réel passé, je ne vois pas le film s'allumer au sens où on allume une mèche. Et il n'y a rien qui s'incarne. Et c'est vrai que Lucille a raison de faire allusion au film de Poggi-Vinel, parce qu'il y a cette idée de passer de...
Jessica Forever.
Voilà, Jessica Forever. Passer de l'indolence adolescente, voilà, les cheveux... on voit, il y a cet acteur qui a les cheveux longs et de l'acné, ce côté où on est tout mou, à un passage à l'acte. Et pour moi, le passage à l'acte ou la violence que peut recéler le film, qui sourd sous le film, n'existe qu'à l'état d'intention, de note d'intention envoyée au CNC. Quoi. Vraiment, pour moi, c'est ça. Et le film ne me fait jamais peur, ne me bouscule jamais. Et tout était tellement plat que j'ai même eu du mal à le regarder parce que tout est sur la même note et mon regard n'arrivait pas à gripper les scènes, ça ne m'intéressait pas parce que j'avais presque l'impression de pouvoir anticiper la fin et de fait je pense que je l'ai anticipé parce que on est sur des rails.
Florence Colombani, oui, Permanent Green Light.
Il m'a semblé que le programme était posé quand même assez tôt de ce que serait cette scène finale et de ce qui se passerait, et que tout l'enjeu du film, c'est qu'est-ce qu'on ressent sur le trajet. Et moi, j'ai été comme Muriel, je suis restée très à distance parce que j'avais l'impression de comprendre quelle direction tout ça avait pris. Il y a cette platitude assumée. Alors, j'ai trouvé ça assez étrange, mais ça m'a un peu rappelé le cinéma d'Eugene Green, autre Américain qui tourne en français et en France, mais
et qui écrit des livres aussi.
Mais finalement, évidemment, ça n'a rien à voir. C'est simplement qu'il y a dans cette atonalité de la langue française, la façon dont ils la font entendre, quelque chose de commun. Et je me suis demandé si ça avait un rapport avec le fait de venir d'ailleurs et de la faire sonner différemment.
Ça peut le fait avoir avec le fait que les deux sont fans de Robert Bresson, quand même. Ça ne vous aura pas échappé.
Oui, mais alors, ça ne m'a pas du tout échappé. Mais alors ça m'a vraiment gênée, pour le coup, parce que justement, cette référence à Robert Bresson très présente et cette utilisation... du plan et du montage et la référence qui est constante dans le film, pour moi est gênante dans le sens où la dimension transcendante de l'œuvre de Bresson n'advient pas dans ce film. Donc c'est évidemment, vous me direz que vous l'avez ressenti, mais je trouve que quand on sent la référence et qu'on ne ressent pas cette dimension-là, la référence devient très gênante.
Non, je vous dirais pas ça parce que je trouve qu'il y a pas de transcendance et que c'est justement ce qui m'intéresse dans le film en l'occurrence.
Oui, mais alors, il y en a chez Bresson, c'est ce que
oui,
je voulais dire.
Mais pas dans celui-là. Et c'est du coup, ça donne un film quand même très différent et qui me touche moi effectivement beaucoup plus. J'étais évidemment troublé comme vous par l'écho bien involontaire à Jessica Forever, parce que mais il me semble que là dans Permanent Greenlight, tu as tout ce qui manque à Jessica Forever, c'est-à-dire qu'il y a effectivement de la complexité, de l'ambiguïté. Enfin, je trouve que c'est un film extrêmement riche dans tous les récits possibles qu'il engendre entre les personnages, parce que moi j'avais peur de ce jeu bressonien. Je suis pas le plus grand fan de Robert Bresson. Je l'aime intellectuellement, mais pas toujours cinématographiquement. Et c'est vrai que si les dialogues, effectivement, sont dits d'une voix blanche, moi, je trouve qu'ils sont extrêmement incarnés. Et c'est ça qui fait pour moi toute la différence, qu'ils sont extrêmement joués. Je trouve que c'est un film qui est éminemment romantique, mais qui est un film romantique du 21e siècle. Et qu'il y a aussi une référence qu'on n'a pas citée, mais qui est assez évidente, c'est celle d'Elephant de Gus Van Sant, qui est un film qui ne cesse de nourrir quand même énormément de films depuis, ça fait quoi, 20 ans maintenant
oui, c'est 2000,
sans doute, oui, enfin, ou pas loin de 20 ans. Mais je trouve qu'il l'actualise, c'est comme une sorte de mise à jour d'Elephant, parce que d'abord, ce n'est pas exactement le même sujet, mais qu'il y a une. Pour moi, chez Farley et Cooper, il y a vraiment une vision à la première personne contemporaine. Singulière, personnelle, et qui fait que cette dimension plastique dont vous parlez, cette platitude, oui, ben elle fait partie de nos vies, de nos univers. On est quand même toujours devant des images très plates, et je trouve qu'ils nous permettent de rentrer dans quelque chose qui est le quotidien de millions et de millions de jeunes gens de par le monde, plutôt dans les sociétés occidentales, d'accord, donc ça réduit un peu le champ, mais ça fait quand même un ou deux milliards de personnes.
Oui, c'est tous des petits blancs, hein, faut quand même
oui,
le dire.
Oui, non mais... bah, oui, c'est dans cette...
Je suis un peu... C'est quand même... Enfin, il y a cette idée... Oh là, désolée d'utiliser le terme petit blanc, mais en voyant le film, je me suis vraiment dit ça. C'est des petits blancs qui s'amusent avec des gilets explosifs et tout ça. Je trouve ça un peu... non mais c'est parce qu'ils en font rien en fait, c'est parce que le film, comme je dis, s'amuse à se faire peur, mais c'est pas peut-être pas sur ce terrain-là qu'il faut se faire peur. Et je vois mais moi
je comprends même pas votre remarque en fait.
En fait, la question sociale ne se pose absolument pas. À la limite, ce que je peux comprendre, c'est que la mort soit vue comme une pure question de mise en scène et une question esthétique. Et ça, en effet, ça ferme potentiellement les champs de l'appréhension et ça déshumanise potentiellement les personnages. Ouais. Bon, en l'occurrence, je trouve qu'il y a quelque chose qui y échappe, et je trouve que ne serait-ce que parce qu'ils arrivent à faire échapper quelque chose, c'est assez beau. Parce que quand on construit en effet une forme aussi fermée, aussi plastiquement déterminée, aussi faite entre guillemets, ce que vous disiez Muriel, pour le CNC, parce qu'en effet c'est extrêmement verrouillé,
ouais, enfin,
tout ça.
Je suis pas sûr qu'ils donnent de l'argent au CNC
non,
là-dessus.
Non, mais dans le principe, non, mais oui. on voit ce que peut être le principe de ce genre de film extrêmement scénarisé où rien... auquel rien n'échappe sur le papier. Et en fait, je trouve que quelque chose échappe. Je sais pas du tout à quoi. Je sais vraiment pas à quoi ça tient. Mais je me suis posé la question. Est-ce que ça tient aux acteurs? Je suis pas sûre. Je pense que ça tient à quelque chose de très archaïque que le film ne maîtrise pas, qui est tout simplement quelque chose de classique, qui est son romantisme. C'est-à-dire que c'est extrêmement simple. C'est une histoire d'adolescent qui veut faire de sa mort une œuvre d'art parce qu'il ne sait pas quoi faire d'autre. C'est extrêmement simple, ça pourrait être cliché, ça pourrait être au second degré, ce que ça n'est jamais. Et en fait, je trouve que c'est assez beau.
Mais justement, je crois que contrairement à ce que disait Muriel Jodet, si ça arrive, en tout cas, ça advient pour nous, c'est parce qu'il se passe quelque chose pendant le tournage. Parce que ces interprètes-là, ils transcendent l'écriture et qu'il se passe des choses entre eux, Muriel Jodet.
Moi, je pense que le problème, c'est que, et ça revient souvent quand on a parlé des Gilets jaunes, il y avait ce même constat qu'en fait, le film ne peut pas être violent parce que de toute façon, en dehors de la fiction, ou les vidéos de petits adolescents qui se filment avant de créer des carnages ou de se suicider sur WhatsApp ou Facebook ou je sais pas quoi, c'est tellement plus violent, tellement plus parlant que pour moi, le film, finalement, n'est qu'un à côté, qu'une note de bas de page par rapport à ce film. Et puis, vous avez raison, il y a la référence Elephant où on se rend compte que maintenant, Elephant est une référence qui trône au-dessus des films contemporains. Pour moi, le film ne réécrit pas ou ne met pas à jour Elephant. Il le répète mollement et mal.
Non, je comprends vraiment pas. Je vois pas comment on peut mettre sur le même plan. Autant je comprends sur Jessica Forever ou sur les films comme, enfin, les questions de la violence policière dont on parlait quand on parlait des Gilets jaunes. Là, je vois pas. En fait, c'est pas comparable. L'ambition de ce film, c'est pas. Il s'agit vraiment pas d'illustrer la condition adolescente. Enfin, je crois pas. Je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement.
Ils le disent dans le dossier de presse que maintenant, pour les spectateurs, se faire exploser, ça renvoie à des choses.
Arrêtez de faire les dossiers de presse.
Mais là, en l'occurrence, ça m'a pas renvoyé du tout à aucune imagerie de ce type. Moi, j'ai pas pensé une seule seconde. Je pense qu'il en joue de manière assez intelligente, justement, sur la question de la ceinture d'explosifs. Le fait même que cette jeune fille qui se suicide au milieu du film, en fait, ne soit pas morte avec son gilet d'explosifs. Enfin, je sais pas, il y a des choses comme ça qui détournent totalement la possibilité, disons, réelle ou socialement avérée qu'on puisse avoir du film.
C'est vrai que le film est hybride parce qu'il est, voilà, il est un peu, il est français, il est américain, et donc on est dans une sorte de no man's land qui permet à nos deux lectures de, voilà, d'exister.
C'est pourquoi il faut aller voir pour se faire sa propre idée. Permanent Green Light de Dak Farley et Dennis Cooper qui est en salle depuis ce mercredi. Avant de conclure, jouons, c'est l'heure de jouer avec Joséphine Dumoulin qui nous rejoint chaque soir pour nous rappeler d'abord dans un premier temps la question de la veille et de nous donner sa réponse, Joséphine.
Alors la question d'hier était: quel film de Terrence Malick tourné aux îles Salomon évoque la bataille de Guadalcanal? Et la réponse était La Ligne Rouge.
Un sacré navet a gagné ce soir des invitations pour l'exposition Homère jusqu'au 22 juillet au musée du Louvre-Lens. La question:
quelle comédie réalisée par les frères Cohen est librement inspirée de l'Odyssée d'Homère?
Ah, sacré, non, je ne vais pas recommencer. Auditeur FC, ça c'est l'adresse postale, enfin l'adresse courriel pour nous écrire, auditeurfc@radiofrance.com si vous avez la bonne réponse. Et bien sûr, vous y ajoutez vos coordonnées postales. Cette émission a été préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinault et Joséphine Dumoulin. La prise de son, Julie Garraud, Tara Bouclifa et Philippe Mercher. Réalisation, Alexandre Fougeron. On se donne rendez-vous lundi à 19h pour une dispute consacrée au spectacle vivant. Je serai avec Marie-Josée Sirache, Marie Sorbier et Anna Sigalevitch. À notre affiche, Un ennemi du peuple d'Henrik Ibsen, mise en scène Jean-François Sivadier. Logique imperturbable du fou. Texte, adaptation, mise en scène Zabou Breitman, Tchekhov à la folie, La demande en mariage et L'ours d'Anton Tchekhov, mise en scène Jean-Louis Benoît, et puis un coup de cœur de Marie-Josée Sirache pour Départ volontaire de Rémi Devos, mise en scène par Christophe Roque.